Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Nous sommes donc le vendredi 23 novembre et nous sommes en direct des studios de Micro Rebelle à Liévin, donc à quelques dizaines de mètres de la place Gambetta. Nous nous y retrouvons chaque vendredi de 18h à 19h. Donc n'hésitez pas, cet enregistrement est public. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir nous faire un petit coucou et discuter avec nous, participer à un débat, rencontrer nos animatrices et nos animateurs. Très bientôt d'ailleurs, c'est une information récente, très bientôt vous aurez la possibilité de mettre en œuvre des interventions téléphoniques. On va vous donner un numéro de téléphone et si vous souhaitez intervenir à distance, nous solliciter, eh bien on pourra répondre à vos questions et puis surtout vous donner la parole en direct, donc le vendredi à partir de 18h dans Micro Rebelle Hebdo. Je vous rappelle par ailleurs que chaque Micro Rebelle Hebdo est rediffusé par plusieurs radios hertziennes associatives, membres de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. En particulier, c'est le cas de Radio PFM 99.9 et Radio Plus 104.3. Alors donc, nous sommes quelques-uns et quelques-unes aujourd'hui en studio. Je suis Lucien, donc militant bénévole à Micro Rebelle. Nous sommes avec Luc. Luc est salarié de Micro Rebelle. Bonsoir Luc.
Bonsoir à toutes et à tous.
Aurélie est également parmi nous. Donc Aurélie fait partie de l'équipe des jeunes de Micro Rebelle. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
Et c'est également le cas de Jonathan qui fait partie également de l'équipe des jeunes de Micro Rebelle. Jonathan, bonsoir.
Bonsoir, avec mon petit gilet jaune là.
Oui, Jonathan est avec nous avec son petit gilet jaune. On va avoir l'occasion d'en reparler. Alors justement, hein, puisque Jonathan nous tend la perche en parlant des gilets jaunes, nous devions ce soir avoir trois invités. Hein. Nous devions avoir Alex, Christophe et Mathilde, qui sont engagés dans le mouvement des gilets jaunes, hein, qui ont y compris conduit plusieurs initiatives sur le bassin minier. Et puis ils ne sont pas là. Alors je voudrais quand même préciser pourquoi ils ne sont pas là. C'est parce que en cette fin d'après-midi, ils ont, avec plusieurs autres militants et militantes gilets jaunes, mis en place un blocage au rond-point des vaches à Inabomo et El Godo. Et il y a eu ce qu'on peut appeler une répression policière avec des gaz lacrymogènes. Hein, Jonathan, tu as eu des informations à ce sujet ?
Voilà, gaz. Après, je ne sais pas s'il y avait les coups de matraque, mais bon, je pense que c'était le but aussi.
Bon, donc effectivement, malheureusement, on n'aura pas parmi nous Alex, Christophe et Mathilde. On leur a proposé de revenir la semaine prochaine. Hein, je pense que là, on va essayer de tenir cette émission. Ce qui ne nous empêchera pas, hein, on a prévu de conduire effectivement cette émission autour du mouvement des Gilets jaunes, pas seulement, mais enfin, notamment autour du mouvement des Gilets jaunes. Ceci étant, Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine également l'agenda social et culturel et la revue de presse. On va commencer par l'agenda social et culturel. Donc c'est Aurélie et Jonathan qui l'ont préparé.
Alors on commence avec le samedi 24 novembre, il y aura une conférence gesticulée, une bulle dans le pavé. La conférence sera tenue par Monsieur Letor à 20h au Lingue. Toujours la même date, il y aura le samedi 24 novembre, il y aura du jazz à Aix. Alors c'est à 20h30 à la salle des fêtes à Aix-Noulette. Les tarifs sont en pré-vente auprès des cultures de communes. Tarif plein 10 euros, réduit 5 euros et solidaire 3 euros. Les tarifs peuvent être achetés le soir même du spectacle, mais le tarif plein est de 12 euros et le tarif réduit est de 8 euros. Il y aura deux groupes de jazz, dont Naysham Jalal et Rip of Resistance, dans le cas de Tout en haut du jazz. Je vais dire un petit peu le synopsis. Depuis plusieurs années, la flûtiste franco-syrienne Naysham Jalal dévoile un univers musical personnel et vibrant qui redonne tout son sens au mot « liberté ». Dans une recherche et une curiosité sans cesse renouvelée, accompagnée de quatre musiciens talentueux aux origines différentes, elle brille par sa virtuose capacité à tisser des liens entre culture musicale et chant esthétique. Ses Rhythm of Resistance nous rappelle qu'en dehors de tout logo ou slogan, résister est une idée étalement neuve, salubre et salutaire. Il ne faut pas oublier que le samedi 24 sur Paris, et pas que Paris, il y aura deux manifs, dont le premier, c'est la manifestation Marche à Paris contre les violences sexistes et sexuelles, à l'initiative du collectif Nous Toutes, dont le planning familial du Pas-de-Calais. Il faut savoir qu'il y a 254 femmes qui sont victimes de viol ou de tentatives de viol, selon l'INSEE, en 2017. C'est effectué tous les chaque jour. Seulement 1% est condamné par la justice, selon le ministère des Droits en 2016. Et un tiers des femmes sont sous harcèlement sexuel au travail. Et enfin, il y a aussi la manifestation des Gilets jaunes sur Paris, une grande manif sur Paris. Le Premier ministre accorde la manif sur Paris au Champ de Mars. Personnellement, moi, je vous les conseille d'aller au Champ de Mars, mais en dehors de Paris, tout autour. Voilà, ce sera toi, Aurélie.
Et le mardi 27 novembre a lieu un ciné-débat au cinéma Le Méliès. Donc, ça se passe à Villeneuve d'Ascq, donc au 11 rue Traversière, donc de 19h à 22h pour la projection du documentaire de Gilles Vernier, Tout s'accélère. Documentaire qui a été réalisé en 2016. Donc, le réalisateur est Marie Delinotte, coordinatrice CLIMI de l'Académie de Lille, et Francis Danvers, enseignant-chercheur. Ils seront présents, justement. Donc, il vous suffit de vous inscrire pour y participer. Ensuite, on se retrouve le jeudi 29 novembre, donc aura lieu une conférence débat organisée dans le cadre du Cité Philo, donc avec comme invité Arnaud François. Donc ça se passera aux Archives nationales du monde du travail, donc au 78 boulevard du Général Leclerc à Roubaix, dès 18h30, donc ça se passera le jeudi 29 novembre. Toujours le jeudi 29 novembre, aura lieu une soirée spectacle Émancipons les féminins par le collectif du 25 novembre en partenariat avec la ville de Lens, donc à 19h à la salle Jean Noin, route de Béthune à Lens. Donc au programme, il y aura un défilé de l'émancipation organisé par Vestali et un théâtre forum par la compagnie des tournoiements. Donc l'entrée est libre et gratuite et vous pouvez avoir des renseignements au 03 21 23 27 53 ou par mail à contact@collectifdu25novembre.org.
Voici la dernière date pour terminer l'agenda, le vendredi 30 novembre. Il y aura un théâtre intitulé Né un 17 octobre à 15h pour les scolaires et 20h30 pour tout le monde à l'espace culturel Ronnie Couteuse à Grenay. Les tarifs sont 10 euros plein, 5 euros réduits et 3 euros solidaires. C'est créé par la compagnie Calam et le texte par Rachid Benzine. Je vais dire le synopsis. 17 octobre 2018, Mostefa vit avec son fils Reda, syndicaliste, et sa petite fille Marie Myriam, étudiante en sciences politiques, qui vient d'assister à la manifestation commémorative du 7 octobre 1961. Les souvenirs rejaillissent à travers cette adolescente qui vient d'avoir 18 ans et à qui le grand-père révèle petit à petit la vérité sur ses non-dits, longtemps enfouis en lui. Prenant appui sur un événement occulté dans la mémoire collective nationale, le dialogue entre les trois personnages aide à réécrire une histoire récente de la France et soulève des questionnements toujours à vif. La transformation du monde du travail, les rapports identitaires et le récit familial et national des générations issues de l'immigration.
Oui, c'est intéressant, hein, cette annonce que vient de faire Jonathan, hein, sur cette pièce de théâtre qui concerne le 17 octobre. Hein, le 17 octobre 61, c'était une grande manifestation des Algériens à Paris. Et il y a eu une répression féroce ce jour-là. On a jeté dans la Seine énormément d'Algériens, on en a arrêté, torturé. Le ministre de la police, enfin le préfet de police à cette époque, c'était Maurice Papon. Maurice Papon qui est connu par ailleurs pour la déportation des Juifs durant la guerre 40. Donc je pense que ça doit être une pièce de théâtre assez intéressante. Si vous en êtes d'accord, on va passer à notre revue de presse. Alors, une revue de presse, évidemment, on va aborder quelques extraits de la presse qui concernent le mouvement des Gilets jaunes. Mais auparavant, je vais évoquer quelques infos glanées dans la presse. Alors tout d'abord, dans La Voix du Nord et Liberté, une annonce. Bientôt, il y aura des bus gratuits à Calais d'ici un an. C'est la mairie, la maire de Calais, Natacha Bouchard, qui l'a annoncé. Avec une question, qui paiera ces bus gratuits? Eh bien justement, ce sont les entreprises au travers de la taxe qu'elles payent d'ores et déjà. Chaque entreprise paye une taxe transport, chaque entreprise de plus de 10 salariés paye une taxe transport. Eh bien cette taxe transport va servir à financer la gratuité des bus à Calais à partir de 2020. Alors cette annonce a été faite au plus fort de la mobilisation des Gilets jaunes sur Calais, ce qui est quand même la preuve, c'est pas inintéressant, que quand on se mobilise, avec ce mouvement des Gilets jaunes, et pas seulement, quand on se mobilise, la lutte, elle paye, et il peut y avoir des conséquences tout à fait positives pour les habitants, les habitantes et les usagers. Et donc justement, cette gratuité des bus à Calais dans un an pose la question de ce qui va se passer sur le bassin minier, puisque suite aux travaux qui concernent le BHNS sur nos agglomérations, de Lens-les-Vins et Nacarvin, on a reçu à Micro-Rebelle déjà le collectif pour la gratuité des transports sur le bassin minier. Et La Voix du Nord annonce il y aura bien un débat politique sur la gratuité des transports. Ceci étant, on aimerait, et on n'a pas de précision à ce sujet-là, avoir des informations complémentaires sur quand auront lieu ces discussions, quand aura lieu ce débat politique, et surtout, est-ce que très rapidement en 2019, il pourra y avoir la perspective de la gratuité des transports sur le bassin minier. Alors dans l'actualité sociale, deux articles dans La Voix du Nord et dans l'Avenir de l'Artois. Deux articles qui concernent la Française des Mécaniques. La Française des Mécaniques, c'est une entreprise à Douvrin, une entreprise qui est assez importante sur le territoire. Donc ces deux articles nous disent, je cite, « Pour suivre la cadence de la production, la direction demande aux salariés de travailler durant la nuit de dimanche à lundi. » Je cite notamment un extrait du communiqué de la direction de la Française des Mécaniques. « Cette réactivité des travailleurs et des travailleuses est primordiale pour garantir l'avenir, respecter nos clients et se préserver dans un secteur très concurrentiel. » Voilà, fin de citation. Donc encore une fois, on a envie de préciser, ce sont les salariés qui doivent ajuster leur vie, ajuster leur vie personnelle, leur vie familiale, pour satisfaire la production. Et l'article cite une réaction syndicale. La CGT a voté contre l'application de cette nuit supplémentaire de travail. Citation. S'il y a plus de travail, il devrait faire des embauches. Sur la ligne concernée, c'est 70 à 80% de contrats temporaires et d'intérimaires. Il devrait compléter les équipes au lieu d'allonger les horaires de travail. Fin de citation. Toujours dans l'actualité sociale, un article de La Voix du Nord. À Aix-Noulette, une soixantaine de manifestants contre les horaires de La Poste. Alors on en a déjà parlé à Micro-Rebelle. La Poste actuellement est en grande restructuration. Les guichets vont être ouverts de manière restreinte. Et ceux qui en pâtissent, comme malheureusement toujours, ce sont les usagers et les salariés de La Poste. Et donc je cite un extrait de La Voix du Nord. Le rendez-vous était donné devant La Poste pour sensibiliser la population au changement des horaires d'ouverture du bureau de poste et aux menaces à terme de fermeture, selon le Nouvel Élan pour Aix-Noulette, c'est un journal local. Avec toutes les conséquences que cela pourrait impliquer dans un avenir plus ou moins proche, malgré les garanties de l'administration de La Poste. Donc effectivement, les attaques en règle contre le service public se poursuivent. Dans Liberté Hebdo maintenant, un article sur une autre lutte sociale, les infirmières en grève. Le journal a interviewé un infirmier. Bon, ce sont les infirmières qui sont en grève, mais on a interviewé un infirmier. Je vous cite un extrait de cette interview. Vous vous mobilisez pour la première fois. Pourquoi ? Réponse de cet infirmier. Avant, je découvrais le métier. J'espérais une évolution positive. Maintenant, j'ai compris qu'il ne se passera rien si on ne se mobilise pas. Avant, la qualité des soins et la réputation qui y allait avec étaient importantes pour les hôpitaux. Maintenant, avec la tarification à l'acte, plus les pathologies sont lourdes et les patients difficiles à soigner, plus cela rapporte. Cela a participé à la détérioration de nos conditions de travail. On opère des gens, quitte à risquer leur vie, ce qui implique une prise en charge plus importante et précise. Et dans le même temps, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes sont moins nombreux, travaillent avec moins de matériel, moins de temps, moins de moyens. On court à l'épuisement des personnels paramédicaux et à la catastrophe pour les patients dont la prise en charge n'est plus optimale. Dans mon service, qui compte une soixantaine de personnes, les arrêts maladie se multiplient pour dépression et burn-out, et chaque année, certains décident de se réorienter, de changer de voie. Toujours dans Liberté Hebdo, un article inquiétant, quand même, concernant le changement prévu des chaudières à gaz. Un extrait. D'ici 2030, une grande partie des habitants de la région devront changer de chaudière. Motif, le gaz qu'on utilise ne sera plus le même, un changement technique obligatoire qui aura un coût. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait le gaz brûlé dans votre chaudière ? Si vous habitez dans les Hauts-de-France, il est fort probable que votre logement soit alimenté au gaz naturel issu du gisement de Groningue au nord des Pays-Bas et dont le gouvernement vient de décider la fin de l'exploitation. Problème, une partie des chaudières n'est pas compatible avec d'autres types de gaz. Il faudra donc la remplacer, soit un coût de plusieurs milliers d'euros par foyer. Quid du financement ? La taxe d'utilisation du réseau ne concerne que les appareils adaptables. Le financement du remplacement des appareils non adaptables reste en suspens. En bref, restons vigilants, restons mobilisés, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Alors une autre info dans Liberté Hebdo, c'est à propos d'un invité que Micro Rebelle a reçu récemment. Il s'agit de Jacques Miesak, qui vient présenter son livre « Pologne, Liberté, j'écris ton nom ». Un extrait de cet article. Ce livre a été conçu comme un pied de nez aux pratiques révisionnistes du gouvernement polonais. Celui-ci prétend effacer la mémoire de la Pologne, mais dans les faits, il offre de remettre sous le feu des projecteurs des militants dont le parcours avait été plus ou moins oublié. Qui se souvenait encore chez nous de Tomasz Rabiega ou de Joseph Kolorz, membre du comité central du Parti communiste, puis combattant des brigades internationales assassinés par les franquistes en Espagne en 1938. Donc la suite de cet article dans Liberté Hebdo. Alors on va maintenant voir dans la presse quelques extraits qui concernent les gilets jaunes. Alors on aurait aimé, si nos invités avaient été là, leur poser la question de comment est-ce qu'ils voient le traitement médiatique qui concerne leur mouvement. Bon, on va quand même essayer, nous, de notre côté, de vous donner quelques éclairages. Alors de mon côté, j'ai choisi de sélectionner l'hebdomadaire Politis. Donc c'est le numéro qui est paru ce jeudi 22 novembre, donc c'est un numéro tout récent. Alors le journal consacre l'éditorial et un dossier de 5 pages au mouvement. Le premier titre, « Une fronde populaire, un fond politique ». Et le chapeau de cet article, « Les gilets jaunes agglomèrent quantité de revendications disparates, mais la question qu'ils posent est bien fiscale. Que fait l'État des impôts qu'ils collectent ? Eux n'en voient plus les effets ». À ce sujet, le journal évoque la sortie, le 17 novembre dernier, des Gilets jaunes comme un succès. Concernant la question des richesses, Politis nous donne quelques éléments intéressants. Je cite un petit peu cet extrait de Politis. « Les riches bénéficient d'un transfert de pouvoir d'achat. Les études indépendantes confirment un sentiment diffus. Les réformes fiscales et les arbitrages budgétaires d'Emmanuel Macron penchent du côté des riches, voire des très riches. Toutes réformes confondues, les 1% de Français les plus aisés devraient voir leurs revenus grimper de 6% en 2019 grâce à la quasi-suppression de l'ISF et à la flat tax qui plafonne l'impôt pour les heureux propriétaires de placements financiers. A contrario, les 20% les plus pauvres voient leur pouvoir d'achat baisser, moins 0,4%, en raison du quasi-gel des retraites et des prestations sociales et de la hausse de la CSG, accentuée par l'augmentation des taxes sur les cigarettes et l'essence. Seuls les allocataires du minimum vieillesse et de l'allocation aux adultes handicapés bénéficient d'une revalorisation. La baisse de la taxe d'habitation fait en revanche repasser le voyant au vert pour la classe moyenne, en particulier pour les actifs dont les cotisations sociales ont été remplacées par une hausse de la CSG. Ceci aux grandes dames des fonctionnaires et des retraités qui paient plus d'impôts et voient leurs ressources quasi gelées. Une perte de pouvoir d'achat d'environ 1% pour ces derniers, qui grimpe jusqu'à 3,11% pour les 20% de retraités les plus riches. Si le bilan sur l'ensemble de la population est nul en 2018 et légèrement positif en 2019, les multiples transferts désavantagent les inactifs au profit des actifs. Un mouvement rendu visible par plusieurs mesures symboliques, dont la suppression de l'ISF qui amenuise le consentement à l'impôt. Alors pour terminer cette revue de presse et concernant le mouvement des Gilets jaunes, un article dans Alternatives Libertaires dont je vais vous lire quelques extraits. Une chose est sûre, la colère majoritaire qui s'exprime là ne va pas faiblir tant qu'elle sera totalement méprisée par le gouvernement. Mais il faut maintenant construire sur la base de ce qu'a été ce 17 novembre, construire des revendications, virer les fachos et s'organiser démocratiquement. Sur la forme des mouvements, ce fut très hétérogène. Des blocages de ronds-points bon enfant, familiaux et revendicatifs, mais aussi des personnes beaucoup plus agressives, brandissant le drapeau bleu-blanc-rouge comme un étendard. Par exemple, sur un rond-point, dans la Seine-Maritime, un blocage bloquait quelques minutes les automobilistes avec les enfants rigolant en gilet jaune sur le bas-côté. Par contre, à l'opposé, quelques kilomètres plus loin, sur les ronds-points autour de Dreux, ce sont des dizaines de drapeaux bleu-blanc-rouge qu'on pouvait voir et des bloqueurs beaucoup plus agressifs forçant les automobilistes à placer un gilet jaune sur leur pare-brise. Comme à chaque mouvement social, la répression policière s'est abattue sur les manifestants et manifestantes avec son lot d'interpellations, de garde à vue et de violences en tout genre. Mais ce n'est pas tout. Des actes racistes ont été commis de la part de certains manifestants. Une femme portant le voile a été forcée de se dévoiler et des insultes racistes envers des personnes noires ou arabes ont été prononcées. Des actes homophobes également, des injures et des blocages plus longs pour des personnes reconnues à tort ou à raison comme homosexuelles. L'extrême droite est en effet une des composantes du mouvement et ces agressions lui sont sans doute en partie attribuables. Mais ce mouvement ne s'y réduit pas. À plusieurs endroits, des tentatives d'auto-organisation, des revendications sociales et écologistes qui vont bien au-delà des taxes sur le gasoil, des fachos virés des points de rendez-vous. Porter de nouvelles idées, sur des bases sociales et écologiques tout d'abord. N'oublions pas que ce gouvernement, qui prétend prendre une mesure écolo en taxant ceux et celles qui ont besoin de leur voiture, ce gouvernement donc ne taxe pas le kérosène des avions et des jets privés, ni le carburant des paquebots de croisière. Ce même gouvernement ferme des lignes SNCF, nous mettant dans l'obligation d'utiliser la voiture. Il ferme aussi des services publics de proximité, nous obligeant à faire des dizaines de kilomètres pour trouver un hôpital, une maternité, un centre des impôts ou un bureau de poste. Pendant ce temps, rien n'est fait pour que l'on puisse vivre décemment. Le SMIC reste désespérément bas et les autres salaires suivent. Le point d'indice des fonctionnaires est gelé. Rien n'a à attendre de ce côté-là. Les retraités vivent pour beaucoup sous le seuil de pauvreté pendant que les actionnaires et les plus riches se gavent. Il faut exiger des hausses de salaire généralisées. Et là-dessus, soyons bien certains et certaines que ce ne sont pas les patrons, ni petits ni grands, qui vont nous aider. D'ailleurs, le MEDEF et les organisations de patrons de PME commencent déjà à appeler à l'arrêt des blocages. C'est nous, tous et toutes seules, par l'action, qui obtiendrons cela. C'est pourquoi il faut, partout où c'est possible, que les décisions du mouvement soient prises de la manière la plus démocratique, dans des comités de base auxquels tous les travailleurs et toutes les travailleuses, tous les chômeurs et les chômeuses, les retraités, les jeunes, peuvent participer. Pour cela, il faudra bien être capable de virer les fachos et les patrons de nos luttes. Nous sommes légitimes à le faire. Bien, cette revue de presse se termine. Peut-être une pause musicale ?
Un peu de musique libre. On m'entendait pas, c'est parce que j'ai pas mis mon micro. Voilà, tout ça, ça va mieux maintenant. Alors, ça s'appelle Me for Queen. Et le titre, c'est Darling Bird. C'est un truc un peu hip-hop jazzy qui nous vient d'Angleterre. C'est tout récemment sorti. C'est très joli. Toujours Micro Rebelle Hebdo, magazine des luttes sociales dans le bassin minier, parfois au-delà. On l'a dit en début d'émission, on comptait sur des invités, des gilets jaunes qui devaient être là, qui nous avaient fait la promesse de venir. Malheureusement, ils étaient en blocage aujourd'hui au rond-point des Vaches dans la zone Hénin Noyelles-Godot. Ils ont été chargés par la police, ils ont un peu morflé avec les gaz lacrymogènes. Bon, ils n'étaient pas en état de faire la route jusqu'à Liévin et de participer de manière sereine à une émission de radio. Voilà, on les invitera prochainement. On a trouvé comme route secours, parce que on suit quand même ce mouvement. Moi-même, j'étais hier à un blocage au carrefour de Liévin. J'ai pu interviewer quelques personnes, voilà, qui quand même permettront de prendre un peu la température.
Prêt de parler pour qu'on puisse rentrer dans le magasin là. Là, ils ont demandé pour qu'ils laissent l'accès aux clients aussi. Hein.
Les gens ils vont avec leur
caddie. On attend de voir ce que ça donne les discussions et on voit après.
la police.
Déjà, il y a déjà les sirènes. La discussion n'a pas encore fini.
Mais là, de toute façon, ils arrivent là.
Bah, la police, elle arrive.
T'arrêtes, lui,
prends le. Il y a les papons qui on entend là.
Les papons, allez, les sirènes.
Pendant ce temps-là, ils sont.
Oh, notre comité d'accueil.
Bah, nous, on essaye de bloquer le moins possible la population. On essaye de viser les points stratégiques, mais dans la région, on n'en a pas énormément. Donc on va essayer de viser beaucoup tout ce qui est péage, etc. Et on va plus bloquer tout ce qui est les parties routes et tout, parce que ça gêne plus les immobilistes, les gens qui vont travailler. L'objectif, c'est pas de se les mettre à dos, c'est surtout qu'ils restent avec nous, parce que pour le moment, je pense que quand on regarde bien, on a à peu près 70% de la population à être soutenue. Mais après, il y a des gens qui ont des obligations, c'est normal. Ils ont des factures à payer et en fin de mois, ils sont comme nous, donc ils doivent aller travailler. Il faut pas gêner ces gens-là. Et ce qu'il faut, c'est gêner tout ce qui concerne l'État. Donc les péages, c'est une très bonne solution. Là, maintenant, on essaye de voir pour faire une petite opération sur Carrefour. Bon, malheureusement, ça passe pas parce qu'ils ont dit qu'on allait casser, mais on n'est pas là pour casser du tout. On est vraiment pacifiste et on restera pacifiste jusqu'au bout.
Donc, en fait, on est un groupe qui est pacifiste, hein, on est bien d'accord. Donc, en fait, forcément, si là, on s'en va, bah, dans une heure, le magasin est rouvert.
On bouge pas d'ici.
Nous, notre but, c'est quoi? C'est que ben en fait forcément le magasin reste les portes fermées pour que ça évite de faire du chiffre d'affaires. Pas forcément pour le magasin mais aussi pour la TVA qui part au gouvernement, on est bien d'accord? Ouais. Donc moi je vous propose une petite chose. On a une super bon sac qu'on nous a prêté, il y a de la musique, elle est sur roulette. Ah bon, on va se promener sur le parking. Ouais. Forcément en restant avec notre présence au niveau du magasin, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le magasin restera fermé. Et c'est une victoire en plus, c'est une bataille de plus pour aller gagner la guerre. Tout simplement. Alors prêt à vous. On va mettre tous les gilets. Prêt à s'amuser.
Ouais. C'est surtout de frapper tout ce qui concerne le capital qui est bien taxé par l'État, comme les magasins, avec la TVA, comme le péage, où il y a 43% du chiffre d'affaires qui retourne à l'État, parce qu'il y a 57% qui appartient à une société privée, mais 43% à l'État. Et l'objectif, c'est de ne plus gêner l'automobiliste qui va travailler ou qui passe, parce qu'au début, on faisait ça, c'était pour faire voir que le français était debout, que le français se réveillait, parce qu'il y a des années qu'on aurait dû se réveiller, mais là, aujourd'hui, depuis que M. Macron est passé, ça fait 18 mois, on ne fait que subir. Et là, la taxe sur les carburants, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et aujourd'hui, on va pas lâcher. Ils auront beau nous envoyer les forces de l'ordre, tout ce qu'ils veulent, on lâchera pas. On n'est pas là pour lâcher. De toute façon, même les forces de l'ordre, quand on discute avec eux, ils le disent. Ils sont dans la même situation que nous. Ils habitent assez loin de leur lieu de travail et ils doivent aussi subir toutes ces taxes, etc. Donc, tant qu'on reste pacifiste et qu'on bloque pas, les forces de l'ordre ne nous gêneront pas.
Quand vous visez Carrefour, en fait c'est pas Carrefour que vous visez, c'est pas les profits de Carrefour, c'est les taxes que génèrent ces profits, les ventes, la vente de marchandises, et donc c'est l'État.
Exactement, comme samedi, Cora a annoncé une perte de chiffre d'affaires d'1 million d'euros. Et nous on se dit que sur ces 1 million d'euros, il y a 230 000 euros qui ne vont pas à l'État, les 23% de taxes.
Est-ce que tu peux me parler un peu de ta situation? Ce qui a fait que t'en es arrivé là, et puis ce que tu fais, ouais, ta situation tout simplement.
Ok, donc moi je travaille dans la fibre optique, donc en général on génère des salaires à 1300 euros. Quand on calcule tout ce qu'on doit payer, que ce soit facture, loyer, etc., on en donne 1250, il nous reste 50 euros pour vivre. Heureusement qu'on a un découvert de 400 euros pour pouvoir faire des courses, sinon ben, on ne pourrait pas se le permettre, on ne pourrait pas nourrir sa famille, et ça c'est plus possible. On veut travailler pour vivre, et on ne veut pas travailler pour survivre et être dépendant des banques, parce que après, on nous dit vous êtes dépendant des banques, mais forcément on n'a pas le choix d'être dépendant des banques, vu qu'il nous reste que 50 euros pour vivre, on est obligé de vivre sur des découvertes, de vivre sur des crédits pour acheter différentes choses. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a des sociétés comme Cdiscount, etc., qui proposent des paiements 4 fois pour tout ce qui est machine à laver, réfrigérateur et tout, parce que ben, sinon il y aurait énormément de familles aujourd'hui qui seraient sans machine à laver, parce qu'ils peuvent pas se le permettre, c'est beaucoup trop cher.
T'as déjà participé à des manifestations avant ?
Ouais, quand j'étais lycéen, j'étais meneur de grève contre la loi du CPE. Et donc, j'ai déjà fait des manifestations et depuis, j'en avais pas refait parce que je me sentais pas directement impacté ou parce que le mouvement n'était pas comme ici présent. Là, ici, on représente personne, on représente aucun parti politique, on représente rien, on représente le français moyen qui travaille et qui essaye de vivre. vivre, tout simplement. Et c'est pour ça que je suis vraiment très motivé, parce qu'au moins, on parle pour personne, on parle pour nous-mêmes. Et moi, aujourd'hui, comme c'est marqué à l'arrière de mon gilet, je vais vous laisser le lire vous-même.
On veut le référendum populaire, Macron, porte tes couilles.
Donc le référendum populaire, pour moi, c'est la première guerre à gagner. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui on arrive à avoir ce référendum populaire sur lequel les lois votées, on n'est pas d'accord, si je dis pas de bêtises, c'est 600 000 signatures, s'il y a 600 000 signatures, il y aurait un référendum populaire qui serait lancé. Je pense que ce serait le peuple qui déciderait des différentes lois votées, et je pense que c'est notre droit. On est dans un pays, comme on dit, libre, et je pense que c'est à nous, Français, de voter pour toutes ces lois. Ok, c'est vrai que tout ce qui est pollution, etc., c'est important, mais c'est pas pour autant qu'on doit être puni pour ça. Je pense qu'il y a d'autres solutions que de nous punir, nous, le travailleur, pour pouvoir mettre en place ces choses.
Donc cette idée de référendum, ça veut dire qu'il y a un problème dans la représentation politique, en fait, dans la manière dont les dirigeants arrivent au pouvoir.
Bah écoutez, le 49-3, je pense que j'ai pas besoin de vous dire qu'on n'a pas notre mot à dire. C'est du 49-3, c'est on le passe par obligation, point barre, et vous la fermez. Je veux dire, on est dans un pays où il y a de la démocratie, et la vraie démocratie aujourd'hui, c'est au peuple de choisir les lois qui doivent être intéressantes. On comprend très bien que pour passer à l'étape supérieure, il va y avoir des sacrifices à faire, mais on ne doit pas non plus s'empêcher de vivre pour ces différents sacrifices, parce que là-haut, eux, ils ne s'empêchent pas de vivre. Croyez-moi que eux, à la fin du mois, ils galèrent pas à manger, ils sont invités dans des sacrés restos, ils se font des sacrés bouffes à plus de 1500 euros le resto, alors que nous, on galère à la fin du mois en se disant est-ce que les 15 euros là, je vais les prendre pour acheter une paire de chaussures, ou est-ce que je vais faire des courses, parce que quand je regarde dans le frigo, bah, il n'y a plus grand-chose. Bah, en général, on choisit les courses, et il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui se privent énormément pour leurs enfants, des parents qui gardent leur paire de chaussures parfois 2 ans voire 3 ans, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'en acheter, parce qu'il y a les enfants avant et le frigo à remplir. Et ça, c'est des choses qui sont importantes, c'est des choses qui sont vécues par tout le monde, que les gens soient chômeurs, que les gens travaillent, même quand les gens travaillent à deux, ils sont surtaxés, on n'arrête pas de les blinder de taxes, les impôts, etc. Ils ont le droit à rien, ils n'ont pas le droit à l'APL, ils ont le droit à aucune aide, que ça soit pour les nounous, etc. Et tout ça, en fait, c'est tout des choses, c'est de l'illégalité, clairement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez autour de vous depuis 2012 qui a changé ? Très honnêtement, pas grand-chose, et pourtant, il y a eu 37 milliards d'euros en plus de taxes depuis 2012. Et ça, là, c'est prouvé par les chiffres, c'est les chiffres qui le disent, donc les chiffres ne mentent pas. 37 milliards d'euros, et qu'est-ce que vous voyez qui a changé aujourd'hui autour de vous, si ce n'est encore plus de précarité qu'en 2012 ?
C'est quoi le niveau de politisation dans le mouvement ? Mis à part cette idée de taxes, est-ce qu'il y a des considérations de, comme tu disais toi, cette idée de référendum populaire ? Est-ce qu'il y a l'idée d'un changement politique, et comment y accéder ? Par quels moyens ? Tu vois, ou je ne sais pas, est-ce qu'il y a des discussions sur les partis politiques ? Est-ce qu'il y a une espèce d'uniformité là-dedans ?
Non. On parle pas de partis politiques. Nous, on parle, entre gilets jaunes, du référendum populaire, parce que c'est la première guerre à gagner pour nous qui sera importante. À partir du moment où le peuple aura son mot à dire dans les différentes lois votées, à partir de ce moment-là, on pourra dire qu'on est dans une vraie démocratie. Et que ça soit la gauche, la droite, le milieu, le haut, le bas, n'importe qui pourra nous proposer justement ces référendums populaires, qui pourra redonner le pouvoir au peuple, c'est tout ce qu'on demande. On n'a pas de parti politique, on représente personne, on est là pour représenter personne. Nous, en fait, quand on écoute les médias nous disent tout le temps, mais les gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment ? Bah, la première guerre à gagner pour nous, c'est ça, c'est le référendum populaire. Au moins, là, tout le peuple pourra s'exprimer, et le peuple pourra donner son avis sur différentes questions, peu importe telle question qu'elle soit.
Ouais, et si je pose aussi cette question de la... des discussions politiques que vous pouvez avoir entre vous, c'est que moi, je me suis demandé aussi, les gilets jaunes, bon, qu'est-ce qu'ils veulent ? On commence à le savoir, mais qui ils sont, c'est un peu plus flou.
Ben, ce sont des ouvriers, ce sont des ouvriers, des retraités, des jeunes comme là, qu'on qu'on a ici, qui sont encore à l'école, des étudiants qui travaillent un petit peu à McDo, des chômeurs qui n'arrêtent pas d'essayer de trouver du boulot, qui essayent de trouver des solutions. On ne cesse de rajouter des lois qui sont faites pour nous pomper. On ne cesse d'augmenter tout ce qui peut aider le peuple à s'en sortir. Aujourd'hui, si on est l'un des pays d'Europe avec le plus de chômage, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on ne nous donne pas les solutions. Si les autres arrivent à le faire, pourquoi pas nous? Parce que nous, on ne nous propose pas les bonnes solutions. Vous savez, il y a une vidéo, c'est d'avril 2000, on est toujours obligé de mettre dans les factures, dans le gaz qui ne cesse d'augmenter, dans l'essence, dans l'électricité, dans l'eau. Vous savez, dans les années 60, à peu près ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, on nous a dit « mettez-vous au gaz de ville, le charbon ça pollue, c'est pas bien, mettez-vous au gaz de ville, c'est moins cher ». On l'a tous fait. On l'a tous fait, au début c'était moins cher. Maintenant, aujourd'hui, le gaz de ville, un foyer ici dans le Nord-Pas-de-Calais, en termes de tarification, il est à peu près à 2000 euros par an pour se chauffer. Dans les années 90... on nous a dit, mais mettez-vous aux voitures diesel, ça pollue moins, ça consomme moins, mettez-vous aux voitures diesel, allez-y. Le Français l'a fait, le Français a écouté son gouvernement, on a tous acheté des véhicules diesel. Et aujourd'hui, on augmente le prix de l'essence, et nous dit, changez de véhicule. Là maintenant, on va partir sur de l'hybride. Allez, on nous dit, voilà, vous avez une prime de reconversion de 4000 euros. D'accord, le véhicule en coûte 30 000. Ok, mais les 26 000, on va les chercher où? Et après? Dans 15 ans, on nous dira « Ah, vous êtes passé à l'hybride, c'était très bien, mais maintenant, on va rouler au solaire, rachetez le solaire !» Non, c'est bon, au bout d'un moment, faut qu'on arrête. Nous, ici, on est dans un bassin minier sur lequel on a absolument besoin de notre véhicule pour aller travailler. On n'a pas de tramway, on n'a pas tous ces moyens qui sont mis en disposition dans les grandes villes pour se rendre au travail. Et il faut qu'on arrête de nous punir pour ça. Parce que là, limite, on a l'impression, vous savez, moi, comme je dis, je travaille pour l'honneur, pour faire voir à mes enfants l'exemple. Je travaille pour l'honneur maintenant. C'est un honneur de travailler en se disant je vais travailler pour l'honneur. Pourquoi? Parce que quand je calcule tout ce que je dépense, que ça soit pour l'essence, que ça soit la nourriture, parce que là pareil, ils prévoient de taxer tout ce qui est tickets restaurant, panier repas, tout ce qui est les CE pour les sorties, les tickets cinéma, etc. Alors que sur tout ça, on a déjà cette TVA. On donne déjà une partie de notre salaire pour récupérer les tickets restaurants. Et là, ils veulent encore une fois les taxer, ils veulent encore une fois les augmenter. Mais on veut vivre, tout ce qu'on veut c'est vivre. Donc pour répondre à votre question, non, il n'y a aucun parti politique, ce sont les Français en colère. Les Français, si, je pourrais peut-être représenter un parti politique, c'était celui de Coluche, il y a 30 ans, voilà, où il disait qu'il fallait remuer la merde en bas pour que ça monte à leur nez, pour qu'ils se disent « Ah, ça pue la merde, mais il faut peut-être qu'on arrête de regarder dans les autres pays et qu'on regarde dans notre pays ce qui se passe, parce que ça pue la merde. » Et ben voilà, alors si aujourd'hui on peut représenter un parti politique, c'était celui de Coluche, il y a 30 ans.
Voilà, c'était un témoignage enregistré hier sur le parking de Carrefour, une personne à qui on était très content d'offrir les moyens d'exprimer sa colère. Malheureusement, je me rappelle plus de son prénom. J'espère qu'il aura écouté le reportage et puis on aura certainement l'occasion de le croiser dans le groupe des Gilets jaunes de Lens-Liévin. Alors le blocage de Carrefour hier, je le précise parce que je trouvais le mode d'action assez intéressant, c'est qu'il s'agissait de... que toutes les personnes réunies aillent dans le magasin Carrefour, achètent pour moins d'un euro et payent tout en pièces jaunes, enfin les pièces rouges plutôt maintenant, les pièces rouges, voilà, histoire d'installer une lenteur aux caisses et que ça bloque en quelque sorte le magasin, et sachant que ça reste dans la légalité. Voilà, malheureusement, le magasin Carrefour a été prévenu auparavant, donc ils avaient fermé les grilles avant même que les gilets jaunes arrivent. Voilà, bon après je pense que tout ça aussi dans les modes d'action, il va falloir que les gilets jaunes sortent aussi un peu de Facebook à mon avis, parce que c'est un peu grillé je pense.
Parce qu'en fait Carrefour avait fermé les rideaux parce qu'il y avait une rumeur qui circulait comme quoi il y avait des casseurs avec tout, avec des barres de fer. Carrefour avait pris peur de cette rumeur, du coup par précaution ils avaient fermé les rideaux. Donc du coup en fait il y a certaines personnes dans le groupe Facebook qui balance des rumeurs ou des fausses photos comme quoi on est des casseurs. C'est pour ça pourquoi en fait Carrefour a fermé les rideaux.
Alors on précise que Jonathan fait partie de ce groupe des Gilets jaunes de Lens-Liévin qui avait participé à différentes actions cette semaine, dont celle d'hier. Bon, au final ça a été plutôt une réussite vu que le magasin Carrefour a fermé, ce qui était encore mieux que de bloquer les caisses pendant une heure, et puis ça ne leur aura même pas coûté un euro. Voilà.
C'est ça.
Alors, comme nos invités ne sont pas là, on s'est dit qu'on allait essayer de discuter, d'échanger, de débattre autour de ce mouvement des Gilets jaunes. Alors, peut-être qu'on peut commencer par toi, Jonathan, vu que t'en fais partie. Explique-nous pourquoi t'en fais partie, quoi. Quels sont tes motifs? Quels sont tes...
disons que pour l'instant, j'ai encore la chance de vivre chez mes parents, donc je peux mettre de l'autre côté. Mais comme je vois que mes parents ont deux salaires, qu'ils arrivent à galérer toujours à payer les fins de mois, je me dis, ça sent la mouise si c'est moi qui emménage tout seul, donc du coup, comment je vais faire? Donc du coup, si déjà mes parents ont du mal à s'en sortir avec deux salaires, alors moi tout seul, un salaire, je pourrais même pas faire de loisirs. En fait, comme l'interview précédemment, c'était travailler pour payer, tout simplement. Pas pour se faire plaisir, mais uniquement pour les impôts. Et quand je vois qu'il y a encore des taxes qui vont arriver en 2019, en janvier, comme l'assurance auto et encore l'augmentation du carburant, je me dis qu'on n'aura pas fini de payer les taxes. Donc autant se bouger le cul, quoi.
Autant se bouger le cul, ça c'est déjà un bon point de départ, je trouve. Aurélie, tu voudrais peut-être réagir à ce que tu as entendu dans le reportage? Qu'est-ce que ça t'inspire?
Ça m'a assez marqué, en fait, les exemples par rapport à la TVA, par rapport à toutes les taxes, en fait, dont j'avais pas forcément connaissance avant. Enfin, je savais que la TVA existait, mais je savais pas, par exemple, pour les chèques restaurants et les tickets cadeaux, enfin, ce genre de choses, que c'était encore retaxé, ça allait être retaxé derrière. Après, je pense que du coup, c'est la personne parle à un moment donné, en fait, du principe de la démocratie, c'est-à-dire, en fait, que la démocratie aujourd'hui, elle est indirecte, puisqu'on passe quand même, on passe quand même par un représentant politique, donc le président et le gouvernement et l'Assemblée, en fait. Et aujourd'hui, on remarque qu'avec ce mouvement des Gilets jaunes, il y a un refoulement, en fait, du gouvernement Macron et une remise en question du principe de la démocratie. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent, oui, le peuple a le pouvoir et donc peut le reprendre. Mais il s'avère dans la réalité que c'est un peu plus compliqué que ça de reprendre le pouvoir. On le voit aujourd'hui avec notamment la répression policière. Rien que ça, en fait. On remarque que le gouvernement s'accroche quand même pas mal à ce qu'on lui donne. Et aujourd'hui, c'est remis en question. Puis on n'en parle plus vraiment, mais l'année dernière, on a eu le 49-3. Et rien que ça, ça nous montre la force du gouvernement, en fait, face au peuple. Et ça, moi, ça me fait un peu penser personnellement. C'est un peu un anachronisme là aujourd'hui, mais finalement en 1789, les gens se sont battus pour enlever le tiers état, la bourgeoisie et tout ce qui était noblesse, quoi. Et aujourd'hui, finalement, rien n'a changé finalement. C'est revenu sous une autre forme, mais c'est revenu quand même.
Lucien, voilà. Tu veux ajouter un petit mot?
C'est un petit tour de table, c'est
ouais,
un petit tour de
studio. C'est une approche. Ouais.
Non, moi, franchement, j'ai découvert le reportage en direct. Hein. J'ai trouvé ce reportage tout à fait chouette et tout à fait revigorant, même, je dirais. Hein. Bon, il y a le copain, bon, puisqu'on n'a pas son prénom, je ne sais pas comment l'appeler, le copain qui s'exprime, là. Moi, je trouve que déjà, il décrit un mouvement. Avec des jeunes, avec des travailleurs, avec des retraités, des chômeurs, enfin un mouvement très très large finalement, très très hétérogène, très populaire, mais en même temps aussi très politique quand même. Alors il l'a dit pas dans le sens des partis politiques, mais dans le sens des politiques. Il analyse un petit peu la précarité. Il analyse. J'aime bien son expression. Eux, les riches, ils sauront toujours se gaver. Nous, on ne peut pas. Très politique aussi sur la question de ce qui est en train de se passer. Hein, quand il décrit on nous a fait passer au gaz, maintenant, on va nous faire passer aux voitures hybrides, après, on nous fera passer aux voitures solaires. Alors, il ne le dit pas, mais derrière ça, il y a le fait que ceux qui s'en sortent, c'est les constructeurs automobiles, par exemple. Eux sont toujours prêts à s'en sortir. Et ce que j'ai bien aimé aussi de politique dans son intervention, c'est en bout de course, c'est toujours les pauvres qui vont trinquer. Et je pense qu'il le dit comme ça. Lui, son expression, c'est il y a une punition pour les pauvres.
Ouais, très bien cette expression. On est puni pour.
Ouais, c'est ça, on est puni. Et moi, j'ai vraiment trouvé cette intervention. Il y a des choses qu'on pourrait y revenir. Sur lesquels on peut discuter. Hein. Je pense qu'il faudra aussi qu'on vienne là-dessus. Mais ma première réaction, c'est quand même une belle description. Moi, quand j'entends cette intervention, je dis que ce mouvement des Gilets jaunes, il a, dans ce que j'ai entendu là, des aspects tout à fait intéressants, tout à fait populaires, tout à fait...
légitimes.
Légitimes, effectivement, légitimes. On en a marre un petit peu de trinquer.
De trinquer, ouais. Et je repense, parce que tu cites ce reportage, on en avait fait un autre au tout début, là, le samedi 17 novembre, où il y avait une retraitée qui en plus était obligée de retravailler parce que sa retraite était insuffisante. Et ça me fait penser que la taxe, c'est un symbole. C'est vrai qu'on dit, bon, il s'attaque qu'à une taxe, comme si c'était pas grand-chose. Mais en fait, la taxe, c'est tout un symbole parce que de un, on n'y échappe pas. Une taxe, on est obligé de la payer, c'est ce qu'elle disait.
Ouais.
Et après, moi, et j'ajouterais comme symbole vis-à-vis de ça, c'est que l'impôt, aujourd'hui, ça représente l'injustice. C'est l'injustice fiscale. Voilà, effectivement, il y a des gens qui s'évadent dans des paradis fiscaux, 80 milliards d'euros par an juste pour la France. On montre du doigt les bénéficiaires du RSA et ceux qui ont des minima sociaux.
L'impôt sur la fortune est supprimé.
Voilà, entre autres, la flat tax, comme tu l'as dit tout à l'heure, le CICE aux entreprises, enfin tout un tas de choses. Mais par contre, les gens d'en bas, eux, ils n'ont aucun moyen d'échapper à ça. Parce que s'il leur venait à l'esprit d'essayer de ne pas payer leurs impôts, mais alors là, ce serait la catastrophe. Hein. Moi, j'y ai déjà pensé aussi, mais ce serait la catastrophe pour eux, quoi.
En fait, c'est le ruissellement à l'envers, le ruissellement de Macron. Macron qui disait ça doit ruisseler des riches vers les pauvres. En fait, finalement, ça ruisselle, mais des pauvres vers les riches, quoi.
Ça remonte par capillarité.
Puis surtout aussi, du coup, pour rajouter ce que tu dis, Luc, par rapport là maintenant, ce qu'ils veulent mettre en place avec le fisc qui peut surveiller les réseaux sociaux. Bon, là, on voit vraiment qu'on peut pas vraiment échapper à tout ce qui est impôt et que c'est vraiment très surveillé, alors que finalement. Pour revenir sur ce que disait la personne dans l'interview, le président et ses amis, finalement, ils mangent à l'œil, quoi. Donc, je veux dire, on le voit vraiment quand on voit que le salaire du président aujourd'hui est de 13 000 euros et que bah, c'est très très loin du SMIC quand même, faut dire ce qui est. Et on peut remettre du coup en question le système politique même. Hein. Comment on peut faire gagner 13 000 euros au président par mois alors qu'on n'est pas capable de rembourser les dettes de la France? Est-ce que le problème, il n'est pas... En gros, les pauvres, ils payent pas assez. Si le problème n'est pas là, peut-être que le problème est... Bah, en fait, on paye des politiciens alors qu'ils servent la France, ils servent le peuple et qu'avant tout...
Ils servent à rien.
Non.
Non, mais ils devraient justement ne pas être payés autant qu'ils le sont. Je sais pas, on leur mettait au SMIC pendant un mois, je pense pas qu'ils rigoleraient.
Tu veux ajouter quelque chose?
Oui, j'ai vu aussi que... je suis sur un groupe Facebook... On remarque que dans plusieurs groupes, les vidéos, les publications sont supprimées. Donc du coup, en fait, maintenant, le mot liberté d'expression, en fait, ne veut plus rien dire en France parce que quand on dit quelque chose, pas forcément haineux, simplement montrer la mobilisation des Gilets jaunes, eh ben, on est directement supprimé dans n'importe quel groupe.
Bon, libre à chacun de ne pas utiliser Facebook aussi. Hein. Je pense que là-dessus, c'est peut-être un travers des Gilets jaunes, mais je pense aussi qu'ils sont en train de s'en apercevoir et qu'ils vont trouver d'autres modes d'organisation, de diffusion. Notamment les radios libres associatives et indépendantes.
Comme micro-rebelle.
Comme micro-rebelle, bien sûr, j'avais même pas besoin de le dire.
Peut-être pour signaler un point, les points sur lesquels j'ai vraiment envie de discuter avec les Gilets jaunes. Par exemple, dans le reportage, dans l'interview qu'on vient d'entendre, le copain, il est très content de s'attaquer aux taxes, notamment la TVA de Carrefour. Moi, j'avais envie de lui poser la question, mais tu crois pas que c'est tout aussi important de s'attaquer au profit de Carrefour plutôt que sa TVA? Parce qu'effectivement, la TVA, elle remonte à l'État. Et l'État, après, il va la reverser aux entreprises, de toute façon, sous forme de CICE ou sous forme de réduction d'impôt sur la fortune, enfin, etc. Mais je souriais parce que Jonathan, il dit les politiques, ça sert à rien. Moi, j'avais envie de répondre. Mais les politiques, ça sert à quelque chose. Ça sert à enrichir ceux qui tirent les ficelles de la vie économique. Autrement dit, la politique actuelle, finalement, elle vise à contribuer à enrichir encore plus les entreprises. Et moi, je pense que ce serait intéressant qu'on se pose la question de... Qui sont les responsables? Et quand on dit que le responsable, c'est l'État, Oui, c'est vrai, l'État a beaucoup de responsabilités, mais je pense que les vrais responsables, ce sont ceux qui tirent les ficelles de l'économie, ceux qui font des profits gigantesques, hein, par exemple les profits pétroliers, puisqu'on parle d'essence. Total a augmenté ses profits de 48% en un an. Ces profits, c'est gigantesque. Et là, on ne parle pas des taxes de l'État, on parle des profits faits par Total. Autrement dit, qu'est-ce qui les paye, ces profits de Total ? Ben, c'est nous, à chaque fois qu'on va faire le plein d'essence. Et puis, c'est aussi les travailleurs de Total qu'on fait travailler de plus en plus dans des conditions de plus en plus difficiles. Donc, effectivement, cibler l'État et les taxes, c'est sans doute important, mais à mon avis, ce n'est pas suffisant. C'est ce qui serait quand même... Mais ça, j'ai vraiment envie d'en discuter avec nos copains gilets jaunes. C'est...
Qui a l'argent ?
Qui a l'argent ? La sphère économique. Ouais. La sphère économique qui... Et ça se fait sur le dos des usagers et des travailleuses et des travailleurs. Ouais. C'est vraiment quelque chose que j'ai...
Parce qu'effectivement, la masse des flux financiers ne passe pas dans les caisses du Trésor public. Ouais. Donc si on se pose la question de où va l'argent, effectivement, Total, plusieurs milliards de bénéfices par an, 48% d'augmentation pour cette année, exonération de fiscale. Exactement. Total ne paye pas d'impôts.
Total ne paye pas d'impôts, quand même.
Là, il y a quand même beaucoup à se faire, je pense. Bon, ouais, il nous reste une ou deux minutes pour une intervention, mais vraiment...
Je serais bien dire, comme quoi, lors de la Coupe du Monde, tout le monde arrivait à se bouger le cul dans les rues. Il n'y avait jamais vu autant de monde. Par contre, pour protéger les valeurs des Français, alors qu'il n'y en a pas...
Qu'on tout le monde. Ça fait trois fois que tu te prononces le mot cul.
Ouais, mais bon, c'est... Bah, après tout, c'est... je vais rester quand même puni, je vais rester dans le mot ouais. cul. Mais en gros, voilà, c'est-à-dire... tout le peuple est sorti dans les rues pour la Coupe du Monde, mais pour protéger les valeurs françaises, on va dire, personne n'est dans la rue. Bah, très peu, en fait, à mon goût.
Bon, je sais pas si les valeurs sont vraiment françaises. Ça, on reposera la question dans une autre émission. Mais voilà, c'est l'heure de conclure, je suis bien d'accord. Mais tu sais, il n'y avait pas grand monde non plus au printemps avec les cheminots, alors qu'ils en ont pris plein la gueule. Et je pense que si à cette époque-là aussi, moi c'est une question que j'ai envie de poser, si les Gilets jaunes s'étaient mobilisés à cette époque-là avec les cheminots, avec l'intersyndicale qu'il y avait, là, ça aurait fait un mouvement vraiment, vraiment très très fort.
Mais il n'est pas trop tard.
Mais il n'est pas trop tard.
Il peut y avoir effectivement les gilets jaunes, les cheminots, les travailleuses, les travailleurs.
Les cheminots, ils ont beaucoup donné cette année quand même.
C'est vrai.
Grave historique. Bon, il est l'heure de conclure ce micro-rebelle hebdo. D'habitude, c'est Lucien qui le fait, mais je vais m'en charger. Voilà, micro-rebelle hebdo, c'est tous les jeudis en direct. Tous les vendredis, pardon. En direct à 18h. Rediffusion sur Radio PFM 99.9 et sur Radio Plus 104.3, n'hésitez pas à venir nous voir, à nous proposer des sujets, à venir débattre, discuter. Les portes de nos studios à Liévin sont ouvertes. On se quitte avec The Albert Square, One Stevens of the Week.
Today's just 1/7 of the week. This week is just one section of